Merci beaucoup, Dominique. Voilà, ben, je voudrais déjà commencer par, par le témoignage qui m'a ému, celui de Anselme. Merci Anselme pour ce moment de partage, de courage. On sait que quand l'Église souffre, quand un membre souffre, toute l'Église souffre, et que vraiment c'est une souffrance qu'on a. Mais il y a une chose aussi, c'est qu'on sait qu'on n'est pas abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et moi, c'est ce qui me tient quand je prie pour vous, parce que je prie maintenant pour vous tous les matins. Quand je prie pour vous, ça me tient vraiment. Je me dis, mais Dieu, il dit dans la Bible que... Est-ce que quelqu'un a déjà été abandonné parmi ses enfants? Non. Et vraiment, il va vous accompagner. Merci Seigneur. L'autre chose que je voudrais faire ce matin, c'est dire que bonne fête à tous les mamans. Parce que c'est vrai, c'est une chance de pouvoir avoir des enfants et d'être maman. Et puis la troisième chose, alors bon, ça c'était un truc qui vous fera peut-être sourire, mais on est champion d'Europe. Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été repris par deux frères anciens, dans l'âge débile ce matin, tant pis. Dominique et Jean-Pierre et Jean-François qui m'ont dit, mais quand Nancy reste en Ligue 2, t'en as même pas parlé et ça nous a déçus. Voilà. Et comme me dit mon frère Dominique, ce n'est que du foot. Ce n'est que du foot. Voilà, bonjour à vous, chers frères et sœurs en Christ de l'Église évangélique de Vendeuvre. Vous qui êtes de fidèles auditeurs de la série de prédications sur David qui se termine, pour certains ils diront hélas aujourd'hui, pour d'autres ils diront peut-être tant mieux parce qu'ils en sont peut-être morts. Ce matin, je place la dernière pièce d'un poste qui aura duré 5 mois en vous présentant cet épisode peu connu de la vie de David, c'est sa rencontre avec Mephibosheth. Alors tout d'abord, il n'est pas là ce matin, je pense, c'est Jean-Haut. J'aimerais remercier chaleureusement notre frère et pasteur Jean-Haut, qui a choisi pour chacun de nous un thème de prédication. Alors je vous assure que prononcer le nom de Mephibosheth à plusieurs reprises a été pour moi un exercice orthophonique, que je conseille à toutes celles et ceux qui veulent perfectionner leur élocution. Merci profondément Jean-Haut. Plaisanterie mise à part, cet épisode peu connu de la vie de David, sauf pour celles et ceux qui sont allés se renseigner en lisant 2 Samuel 9, témoigne chez David, ce roi hors du commun, d'une profondeur de cœur et d'une relation d'intimité puissante avec son Dieu. Et maintenant, je vous invite à lire ensemble le chapitre 9 de 2 Samuel. David demanda « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Il répondit « Pour te servir. » Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül ?» pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Oh, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodbar, et Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth ?» Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Mephibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mica, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. Alors tout d'abord, frères et sœurs, pour situer chronologiquement ce texte, il faut tenir compte des paroles que nous avons lues. Alors, vous qui êtes devenus, bien sûr, des experts de la vie de David, hein, vous connaissez la vie de David par cœur maintenant, il est manifeste que cet épisode se situe entre deux grands événements, la mort de Saül et Jonathan sur le mont Gilba, alors qu'il livrait combat contre les Philistins avec l'armée d'Israël, et puis la révolte d'Absalom contre son père David. Est-ce que ça vous parle, ces deux événements ? Il est plus qu'important de faire un rappel historique de la situation politique en Israël à l'époque de David. Alors, cela pour bien comprendre l'épisode que nous allons voir ce matin. Saül, lui, il est roi d'Israël. Il est oint par l'Éternel, mais suite à une faute grave de sa part, eh bien, la royauté lui est enlevée et donnée à David, mais en cachette de Saül. On va comprendre pourquoi. 1 Samuel 16, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel répondit, « Mais comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » C'était pas un tendre, Saül. Hein. C'est-à-dire que si il apprend qu'on oint un autre roi, ben, il va se venger. Dès lors, l'Éternel retire son esprit au roi Saül et bénit de plus en plus David. Une opposition profonde s'installe entre Saül et David. Et un esprit de jalousie vient remplir Saül, qui voit la popularité de David grandir et puis la sienne diminuer. 1 Samuel 18, versets 6 à 8, résume bien cela. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Et les femmes chantaient en poussant des cris de joie. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Vous imaginez le roi quand il entend ça? C'est vrai que Saül prit très mal ses chants et se mit dans une très grande colère. Et il dit, j'en attribue 10 000 à David et à moi seulement 1000. Mais il ne manque plus que la royauté. Alors, rempli de jalousie et épris de haine pour David, Saül n'a de cesse que de vouloir faire périr celui qui est devenu son ennemi, c'est-à-dire David. À son fils Jonathan, il va confier cette phrase lourde de sens, 1 Samuel 20, 31. « Tu sais, Jonathan, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, eh bien, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Envoie-le chercher, car il est digne de mort. » Saül a envie de tuer David. Alors, dès lors, Saül va passer le reste de sa vie à pourchasser David afin de le tuer. Mais les sentiments de David sont tout autres. Tout d'abord vis-à-vis de Saül. Il le respecte en tant que oint de l'Éternel. Par exemple, dans le désert de Ziph, alors que Saül poursuit David avec 3 000 hommes, eh bien, Saül entre seul dans une caverne où se trouve David et ses hommes afin de faire un besoin naturel. Et les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton esprit entre tes mains. » 1 Samuel 24,5. « Allez, vas-y, liquide-le, quoi. Hein » David se leva, il coupa doucement le pan de manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, nous ? Frères, sœurs, un tel respect pour Dieu, un tel amour pour le prochain qui est son ennemi, préfigure l'enseignement de Jésus, mais nous interroge aussi sur notre propre façon de nous comporter dans nos vies. Matthieu 5, versets 43-45, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ben oui, je sais voir bien, c'est quelque chose de dur à pratiquer, ça. Frères, sœurs, sommes-nous plutôt des Saül, enfermés dans notre haine envers ceux qui sont nos ennemis, incapables de pardonner à ceux qui nous font peut-être du mal, ou plutôt des David supportant quelque injustice par amour pour Dieu et pour notre prochain? Qui sommes-nous vraiment? Alors si David est l'ennemi de Saül, il vit avec Jonathan, le fils de ce dernier, une amitié extraordinaire. Jugez-en plutôt. 1 Samuel 20, versets 15 à 17. C'est Jonathan qui parle à David. « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. » Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Ça vous arrive d'aimer des gens comme votre âme ? Ben voilà ce qu'il y avait comme relation entre David et entre Jonathan. David a toujours fait preuve, durant la vie de Jonathan, d'une parfaite fidélité. Son amour en respect des engagements et son amitié irréprochable envers Jonathan ont fait de lui un ami irréprochable. Alors ces deux vertus cardinales, l'amour, le respect du roi David, loin de l'Éternel, font de lui un roi selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu voit son cœur et Dieu l'aime tel qu'il est. David va préparer la venue d'un autre roi selon le cœur de Dieu. C'est le roi des rois, Jésus-Christ. Alors revenons maintenant au texte de 2 Samuel 9. Lorsque le roi David posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» On peut imaginer l'angoisse, voire la panique qui s'empara de la maison de David, de la maison de Saül. Pour les uns, il s'agissait d'une ruse. Ils pensaient que, un peu comme Hérode le frappe plus tard, et qu'ils pensaient éliminer Jésus, certains ont dû penser que, selon la coutume de l'époque, David voulait exterminer les éventuels prétendants au trône. Donc ce n'était pas rassurant pour eux. Pour d'autres, c'était un simple geste politique de la part de David qui cherchait à réunir les deux maisons et donc de fortifier sa royauté. S'il pouvait avoir un fils de Saül, un petit-fils de Saül avec lui, c'était toujours mieux. Pour d'autres, enfin, il s'agissait d'un geste de loyauté envers la mémoire de Jonathan. On peut penser que la maison de Saül était divisée dans ses opinions sur ce sujet. Alors un vieux serviteur de Saül, nommé Tsiba, vint vers David qui lui demanda « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» En fait, là, quand il exprime ça, c'est un David rassurant qui répond à Tsiba. Pourtant, ce dernier, il reste quand même méfiant, il a un peu la trouille, Siba répondit à David, « Ah oui, ben, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est handicapé aux deux jambes, hein, comme s'il voulait dire au roi, « Tu n'as rien à craindre de lui, hein, c'est un handicapé, tu n'as rien à craindre de lui, il ne va pas te déranger. » Effectivement, Mephibosheth, j'appellerai peut-être Mephi de temps en temps, Mephibosheth, le fils de Jonathan, est le seul survivant de la famille de Saül. Cet enfant a un destin bien particulier qui est relaté dans 2 Samuel 4. Alors vous savez, lorsqu'arriva la terrible nouvelle de la mort de Saül et de ses 3 fils sur la montagne de Gilboa, eh bien la panique s'empara totalement de la maison de Saül. Jonathan avait un fils qui avait 5 ans, et lorsqu'arriva la nouvelle de sa mort, eh bien sa nourrice prit l'enfant et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, eh bien l'enfant tomba et resta estropié. Son nom était Mephibosheth. Oui, merci Dominique. Le roi David l'envoya chercher. Verset 6. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna en disant « Me voici, je suis ton serviteur ». Alors David lui dit « N'aie pas peur ». Il y avait de quoi avoir peur quand même. Hein. N'aie pas peur. Il aurait pu lui trancher directement la tête. Hein. Car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Ça, c'était une parole engageante. Mais Mephibosheth se prosterna et dit « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» L'expression « un chien mort tel que moi », ça montre aussi le peu d'estime qu'il avait pour lui. Mais je pense que ce n'est pas tout. Mephibosheth ne se dénigre pas vraiment devant David. Il prend non seulement conscience de la grâce infinie qui lui est faite, mais aussi de sa pauvreté spirituelle, car lui-même n'aurait certainement pas agi comme David l'a fait. Et pourquoi je dis ça ? Si j'affirme cela, c'est parce que le comportement de la vie intérieure de Mephibosheth est loin d'être exemplaire. Par exemple, en 2 Samuel 16, au verset 3, alors que le roi David doit fuir devant son fils Absalom, vous rappelez, qui s'était révolté contre lui, eh bien David s'inquiète de l'absence de Mephibosheth. Il appelle Siba et il lui dit « Siba, « où est donc le fils de ton maître ? Où est Mephibosheth ?» Siba dit « Il est resté à Jérusalem avec sa Absalom, car il a dit « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Mephibosheth trahit David, comme Judas trahira plus tard Jésus. Ce n'était pas un cœur profond et sincère. Quelqu'un qui vous fait du bien et vous choisissez vraiment son ennemi, ça fait vraiment mal. Et pour ceux qui veulent encore aller voir plus loin pour Mephibosheth, c'est encore pire, parce que quand le roi reviendra, le roi David reviendra de vainqueur d'Absalom, il fera venir Mephibosheth et lui dira « T'étais où Mephibosheth ?» Il dira « Oh oui, mais on m'a trompé, on m'a raconté des histoires, mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas. » etc. C'est-à-dire qu'il trahit une deuxième fois David. Frères, sœurs, 1000 ans avant la venue de Jésus, le Fils de Dieu, eh bien le roi de grâce, mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, David pratique la grâce avec Mephibosheth en lui accordant pardon, bénédiction et protection. Mephibosheth est le symbole profond d'un monde infirme, handicapé par le péché, à qui Dieu offre pardon et salut en Jésus-Christ. Tout est symbolique dans ce texte de 2 Samuel 9. Tout d'abord David, ce roi selon le cœur de Dieu, qui préfigure un autre roi, nous l'avons dit, hein, selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël, le roi des rois, Jésus, le Fils de Dieu. Tout comme David, fils d'Isaïe, eh bien, roi de Juda, Jésus est issu de Juda, selon Ésaïe 11, versets 1 à 5. en rameau sortira du tronc d'Isaïe, Isaïe c'était le père de David, hein, et en rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez que Jésus a la même origine que David. Comme David, c'est un roi craignant Dieu et fidèle en toutes choses. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel, dit Jean. Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est ce qui caractérise aussi David. En décidant d'aller au-devant de Méphibosheth, David préfigure le Messie qui vient vers le monde perdu afin de lui offrir le pardon et le salut. David, en refusant de se venger, parce qu'il aurait dû le faire, ça, c'est ce qu'aurait fait tout roi, j'allais dire compétent, mais tout roi, de la maison de Saül, et en pratiquant le pardon, eh bien, il annonce la venue d'un sauveur qui portera les péchés des hommes. Ésaïe 53, verset 4, « Oui, Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » David, en invitant Méphibosheth à manger chaque jour à sa table, il préfigure quoi? Eh bien, il annonce l'invitation future lancée par Dieu à toutes celles et ceux qui seront, par la foi, placés en Jésus-Christ, invités au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19,9, l'ange, dit Jean, me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Enfin, en rendant à Méphibosheth tous les biens de Saül, David annonce aussi la restauration future de toutes celles et ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Vous vous rappelez de ce passage ? « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, dit l'Éternel, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà, c'est le rétablissement de ce que Dieu a fait en nous et que nous portons ce matin. Nous portons aussi la présence de Jésus en nous, nous portons son esprit et avec un cœur nouveau. Mais Méphibosheth n'a rien fait pour mériter la grâce et le pardon de David. Il l'a simplement accepté comme un cadeau royal, venant d'un cœur fidèle, loyal et pétri d'amour. De même, nous aujourd'hui avons-nous reçu la grâce du Christ par la foi. Est-ce que nous avons reçu par la foi? Voilà, je pose une question de manière générale, mais chacun peut éprouver son cœur. Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croyez-vous au Fils? Avez-vous reçu la vie éternelle? Vous savez, j'ai un copain qui s'appelle André et je faisais plein de voyages avec lui avant d'être marié avec Wardia. Et c'était un homme qui aimait Dieu, enfin qui aime toujours Dieu parce qu'il est toujours vivant. Et un jour, quand je me suis converti avec lui, enfin, je me suis converti en Équateur, il était là, et je lui ai dit, mais André, il suffit de croire. La grâce, c'est on reçoit en croyant. Il m'a dit, oui, mais moi, j'aimerais quand même avoir un cœur beaucoup plus pur et faire des efforts pour que je sois apprécié de Dieu. La grâce, c'est tellement facile à recevoir que ça en devient difficile. Méphibosheth était ennemi de David. Il avait peur de venir en sa présence. Et pourtant, la grâce du roi l'a réconcilié avec la maison de David et l'a comblé de bénédictions. Est-ce que tu as peur ce matin de venir à Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ce matin a peur de venir à Christ? Penses-tu qu'il va te punir parce que tu as des pensées mauvaises ou un comportement contraire à ce qu'il attend, que tu n'es pas encore débarrassé de tous tes péchés? Mais je dis souvent à Wardia, si on était parfait, on serait Dieu. Ben oui. Des fois, on dit, mais oui, mais je ne suis pas vraiment parfait, je ne suis pas encore dans la perfection que Dieu attend, mais si j'étais parfait, je serais Dieu. Viens à lui ce matin, comme Mephibosheth est venu devant David avec un esprit humilié. Dans le psaume 103, verset 10, ce sont des paroles de David, il est marqué, « L'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos fautes, mais comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Viens à lui ce matin avec tes mots, tes paroles, mais aussi tes souffrances, parce que Dieu, il connaît tes souffrances. Il a souffert lui-même, Dominique nous l'a rappelé, sur la croix. Réconcilie-toi avec celui qui t'aime et qui t'attend depuis si longtemps. Comme Mephibosheth, vous vivez peut-être une difficile épreuve physique, morale ou spirituelle, ou même les trois à la fois, et vous n'entrevoyez aucune solution pour en sortir. Vous vous sentez peut-être oublié ou abandonné par Dieu. Le psaume 18 dit « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Mais, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il a étendu sa main d'en haut. Il m'a sorti, il m'a saisi et m'a retiré des grandes eaux. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Ésaïe 53, verset 4. « Car ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Si tu n'as pas encore fait, viens chercher la grâce que t'offre Jésus-Christ ce matin. Ouvre-lui ton cœur et viens. La grâce en Jésus-Christ est un cadeau, donc c'est gratuit. Moi, quand je viens chez quelqu'un avec un cadeau, je ne dis pas « ça fait 35 euros ». C'est un cadeau qui a été offert par Dieu à toutes celles et ceux qui, par la foi, acceptent le pardon de Dieu. Et si le pardon est gratuit, il engage, mais aussi il oblige toutes celles et ceux qui le reçoivent et y croient. Celles et ceux qui ont reçu la grâce se doivent de pratiquer le pardon. Le pardon, ce n'est pas une option, mais c'est une décision. Je dois pardonner. C'est plus qu'une décision, c'est une obligation. Je dois pardonner. Peut-être y a-t-il ce matin parmi nous des sœurs ou des frères, ou les deux, qui vivent des conflits intérieurs car ils n'arrivent pas à pardonner. Certains sont dans ce cas ce matin. N'arrivez pas à pardonner parce que c'est trop dur pour vous de pardonner. Mais il y a un autre cas. Je voudrais m'adresser à celles et ceux qui sont dans le non-pardon en pensant « c'est pas grave de ne pas pardonner ». Ben oui, moi je peux vivre avec des conflits avec les uns, avec les autres, avec mon père, avec ma mère, avec mes sœurs, mes frères, mais ça ne me dérange pas, moi, ça ne m'impacte pas. Alors, oui, c'est grave. Et j'aimerais leur lire ce qu'en dit Jésus à travers la parabole très claire de Matthieu 18, versets 24 à 35, et je terminerai là-dessus. Un roi voulait régler ses comptes avec les administrateurs de ses biens. Pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plusieurs milliards de francs. Comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Alors ce dernier se jeta à ses pieds et resta devant le roi, prosterné, le front contre terre en suppliant « Oh non, sois généreux envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Le souverain prit de pitié pour lui, le renvoie libre après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. C'était généreux. Mais à peine sorti, ce fonctionnaire tombe sur un collègue qui lui doit quelques milliers de francs. On vient de lui faire grâce de milliards, hein.
Il l'attrape, lui serre la gorge à l'étrangler. « Paye-moi ce que tu me dois !» lui crie-t-il. Son camarade se jette à ses pieds et se met à le supplier. « Sois généreux envers moi !» lui dit-il. « Accorde-moi un délai et je t'en rembourserai. » Mais l'autre ne veut rien savoir, ne veut rien entendre. Bien plus, il s'en va et le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui doit. D'autres collègues, témoins de ce qui s'est passé, en sont profondément révoltés et ils vont rapporter toute l'affaire à leur seigneur. Alors celui-ci fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui agit de la sorte. « Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton collègue, comme j'ai eu moi-même pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livre au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Je pense que plus clair que cette parabole, il n'y a pas. C'est-à-dire que Dieu nous a pardonné en Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés, tout. Et nous, eh ben on est appelé à pardonner, même à des gens qui nous ont fait du mal, à des gens qu'on n'aime pas. On doit leur pardonner. Voilà. Si ce matin, il y a quelque chose à retenir de ce passage de Méphi, eh bien, ça sera ça. C'est-à-dire que Dieu nous a pardonné, pardonnons. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Je vous remercie et je vais prier pour terminer.